Oui, en France à présent, Yves, à peine entamé le conclave sur les retraites, déjà mal embarqué entre le MEDEF qui se dit pessimiste, FO qui claque la porte, ces concertations qui doivent durer 3 mois sont-elles illusoires ou un chemin est-il possible entre les partenaires sociaux? On va en parler tout de suite avec Frédéric Souillot. Bonsoir, bonsoir. Secrétaire général FO. Merci de nous avoir, d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir Gaëtan Mélin, bonsoir, qui va nous accompagner ce soir, chef du service économie de BFM TV. Yves et Bruno qui sont toujours à mes côtés. Frédéric Souillot, 14h cet après-midi, coup d'envoi des concertations. Quelques minutes plus tard, FO quitte la table des discussions. Vous insurgez, tout ceci est une mascarade. Pourquoi une mascarade?
Bah écoutez, le courrier que nous a remis, nous a envoyé hier soir très tard le Premier ministre, il nous dit « vous avez carte blanche sans tabou ni totem ». Et en fait, dans le courrier, on s'aperçoit qu'on fait une délégation paritaire permanente auprès du gouvernement et qu'on est enfermé dans un carcan qui nous dit « vous pouvez pas toucher à l'âge de départ ». Vous devez préserver l'équilibre financier, mais bien évidemment, ça, on est d'accord. Et sur le reste, vous ne pourrez bouger sur rien. Donc, moi, je le dis depuis le début, je l'ai même déjà dit ici sur votre plateau, moi, je suis pour l'abrogation de la réforme des retraites. Si c'est pour aller négocier 3 clopinettes et dire, bon, ben, on a un petit peu aménagé ou amélioré cette réforme des retraites, cette réforme des retraites dont on ne veut pas. Aujourd'hui, on n'est pas encore à 64 ans et 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont déjà plus en emploi. On doit parler du taux d'emploi et de l'emploi tout au long de la vie.
Pour qu'on ait tous, Gaëtan, le même niveau de connaissance sur ce sujet, en fait, François Bayrou a dit que tout pouvait être discuté, mais il a ajouté une condition dans ce courrier qui a été envoyé aux partenaires sociaux, c'est de rétablir l'équilibre du système financier à horizon 2030, alors que le mot d'ordre, jusqu'ici, c'était de ne pas dégrader l'équilibre financier.
Oui, alors il avait parlé d'équilibre financier du système des retraites, mais sans forcément donner de date. Et le problème, c'est que la Cour des comptes a chiffré le déficit du régime des retraites du privé, un déficit qui va s'accroître au fil des années et qui, en 2030, sera beaucoup plus important qu'en 2025, puisque je rappelle pour 2025, on estime qu'il devrait être de l'ordre de 6,6 milliards d'euros et donc de près de 10 milliards en 2030. Et donc, effectivement, là, le Premier ministre dit aux partenaires sociaux, débrouillez-vous comme vous voulez, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir un système équilibré en 2030. Donc, ça veut dire que non seulement on va aller au-delà, finalement, de la réforme de 2023, parce que la réforme de 2023 qui était censée équilibrer le système, eh bien, finalement, on s'aperçoit qu'elle n'est pas suffisante et qu'à court terme, en 2023, on y est parvenu, puisqu'on avait un régime excédentaire, notamment grâce à l'inflation, mais que très rapidement, eh bien, on
donc, en fait, ce que François Bayrou est en train de dire, c'est voilà, il faut aller encore plus loin que la réforme de 2023, parce qu'il va falloir financer encore, voilà. Trouver encore plus d'argent.
On rappelle, en fait, les marges de manœuvre, c'est on baisse les pensions, on augmente les cotisations, ou bien on augmente la durée de cotisation, on décale l'âge de départ à la retraite.
Et vous, ce que vous dites, Frédéric Souillot, la condition fixée par François Bayrou d'atteindre l'équilibre financier donc en 2030, ça empêche toute voie de compromis possible sur un retour à un âge à 62 ans, un âge de départ à 62 ans.
Mais oui, et puis
c'est une équation impossible.
Mais l'équation, comme il la pose dans son courrier, elle est impossible. Elle aurait été déjà pas simple avant. On est d'accord là-dessus. Ouais. Maintenant,
bah vous disiez, tous les syndicats disaient que c'était possible de financer un retour à l'âge de 62 ans.
Ah oui, non, mais moi je le dis encore et j'y crois. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est Jean-Hervé Lorenzi qui l'a écrit, défini, projeté, ben on a 4 milliards d'excédents en 2030. Donc là, on n'a pas de sujet. Et on ne parle même pas du recul de l'âge de départ ni de l'allongement de la durée de cotisation. Si demain, mesdames, vous êtes payé autant que ces messieurs, c'est 6 milliards dans les caisses à la fin de l'année de cotisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus de déficit sur le système des retraites. Donc, des sujets, c'est pas la baisse des pensions.
Le MEDEF sur les cotisations, justement, là-dessus aussi, il y a un sujet, parce qu'ils veulent pas entendre parler d'une augmentation de cotisations. Oui, ils veulent baisser les cotisations.
Mais le MEDEF en premier dit, il faut l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et moi, je lui dis, D'accord. Mais faites d'abord l'égalité salariale à travail égal, salaire égal.
Alors attendez, on va revenir sur les pistes de financement possibles de notre système de retraite. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on reparle de ce qui s'est passé ce matin. Vous parlez de mascarade, vous parlez même d'instrumentalisation des syndicats. C'est-à-dire qu'on soit précis. En fait, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train d'accuser François Bayrou d'avoir juste voulu sauver sa peau et éviter la censure du PS en proposant ce conclave qui en fait est une simple mise en scène, c'est ça?
Alors, je ne sais pas ce que François...
Moi, c'est ce que je comprends quand vous parlez d'instrumentalisation des syndicats. Et que vous faites référence à l'accord de censure, de non-censure avec le PS.
Alors, moi, je fais pas référence à l'accord de censure ou de non-censure. Pour le coup, quand il m'inscrit avec un badge « Délégation paritaire permanente auprès du gouvernement et du Parlement », je suis la seule organisation syndicale qui n'appelle jamais à voter pour l'un, et parfois ça fait sourire Yves Tréhard, ou contre l'autre. Parce que je ne suis pas instrumentalisé. Depuis 1947, à Force ouvrière, on a décidé, ils ont décidé avant moi, mes pairs, de ne plus être instrumentalisé par quelque parti politique que ce soit. C'est pour ça qu'on a quitté la CGT, pour arrêter l'instrumentalisation du Parti communiste. Et là, pour le coup, je vais devenir un assistant du gouvernement et je vais lui rendre des comptes rien qu'à lui. Eh bien, le code du travail, c'est pas cela. La négociation collective, la démocratie sociale, ce n'est pas cela. Ils nous sollicitent une lettre de cadrage, une lettre d'orientation. C'est ce que je dis à la fin de mon communiqué. D'ailleurs, le L1 du code du travail serait légitime. On reprend la discussion sur là où on l'a arrêté, sur pacte de la vie au travail. On parle formation professionnelle tout au long de la vie, reconversion, fin de carrière, usure au travail, pénibilité, puisque c'est des mots dont on peut parler, et on parle prévention plutôt que réparation.
Mais justement, il y a des choses qui peuvent se négocier, on va y revenir dans un instant, mais là, pour votre position, c'est clair, c'est terminé pour vous, vous n'y retournerez pas jeudi prochain?
Mais même si le Premier ministre dit dans une interview au Figaro qu'on sera les bienvenus autour de la table des négociations, pour négocier, il faut être deux, et là, il n'y a pas de négociation possible. Donc, ce n'est pas une négociation. Ça s'appelait conclave, ça s'est appelé concertation, maintenant ça s'appelle négociation. Ouais. On attend encore un petit peu dans les synonymes.
On attend de voir l'évolution et ce sera peut-être référendum puisque c'est une proposition qui a été faite par François Bayrou. Je vais vous demander votre avis dans un instant dans le Figaro. Mais avant, Bruno, c'est vrai quand François Bayrou disait voilà, aucun totem, aucun tabou, mais il fixe cette condition qui est de rétablir l'équilibre, d'atteindre l'équilibre financier en 2030. Ça veut dire que c'est strictement impossible de revenir sur la réforme des retraites de 2023, que c'est une équation, je disais tout à l'heure, une équation impossible.
Mais je crois que Gaëtan Mélin a bien posé la question, c'est-à-dire que déjà, la réforme de 2023 ne permet pas d'équilibrer les comptes. Je crois qu'on est autour de deux tiers à peu près, ça couvre à peu près les deux tiers de ce qu'il faudrait pour couvrir le paiement des pensions. Donc la situation ne risque pas de s'améliorer, tant démographique, enfin aucune donnée aujourd'hui ne permet d'imaginer qu'on puisse raisonnablement revenir à 62 ans. Donc je pense que les données du problème n'ont pas beaucoup changé. François Bayrou...
Il y a quand même quelques milliards en plus à aller chercher du coup pour 2030, là dans les conditions qui sont fixées par François
milliards,
Bayrou.
Quelques milliards en plus, et de toute façon, François Bayrou... Quand il a posé les termes du conclave, il les a posés en expliquant que lui, il était plutôt favorable à une retraite par points, il n'était pas forcément favorable aux bases de la réforme de 2023.
Mais du coup, pardonnez-moi, mais je
vous
pose la question.
Il a vendu quelque chose au partenaire social qui est compliqué, d'autant plus que l'EFO décide de sortir du conclave.
Ouais,
le MEDEF, il rentre entraînant les pieds. On n'a pas encore entendu la CGT, mais enfin, on imagine que ça va ressembler à ce que dit EFO.
Oui, c'est. Pour l'instant, la CGT n'a pas claqué la porte.
C'est très très mal embarqué, c'est clair. C'est très très mal embarqué.
Mais Bruno, je repose la question que j'ai posée à Frédéric Souillot. Est-ce que ce conclave, finalement, ne sera qu'un instrument politique pour éviter la censure?
Je sais pas, parce que on peut pas reprocher à François Bayrou d'avoir essayé de donner quand même la main aux partenaires sociaux. Après, ils apprennent pas. Monsieur Souillet décide de partir. C'est dommage. Je veux dire, c'est aux partenaires sociaux de donner des solutions, des solutions crédibles, hein, pas des solutions impossibles à appliquer.
Gaëtan,
on aurait très bien pu revenir sur l'âge de départ à la retraite. En fait, la Cour des comptes fait un certain nombre d'hypothèses et notamment indique que si on agit sur la durée de cotisation, eh bien là, on peut avoir une manne financière plus importante à plus long terme. On peut également agir effectivement sur les cotisations, les augmenter un peu. Et puis, on sait, on peut aussi, ça c'est la Cour des comptes qui le dit, on peut désindexer les pensions à un point au-dessous de l'inflation. Donc voilà, il y a des possibilités aujourd'hui de résoudre cette équation financière, mais il faut faire des choix. Il faut savoir.
C'est pas très populaire. Il y a pas beaucoup de partis politiques qui ira dans ce sens de désindexer les pensions. Et j'imagine que Frédéric Fouillot doit bondir en entendant cette proposition.
C'est d'ailleurs pour cela que François Bayrou donne finalement le bébé aux partenaires sociaux en disant bah écoutez très bien, trouvez la solution.
Oui, mais est-ce que l'équation est... Enfin, je repose ma question. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire voilà, le cadre il est comme ça, mais il est tellement étroit, c'est ce que vous êtes en train de dire.
On voit bien surtout que les solutions sont complètement divergentes. Vous imaginez bien que le patronat ne veut pas entendre parler d'augmentation de cotisation, et du côté des organisations syndicales, si on veut revenir à l'âge de 62 ans, c'est pas pour augmenter la durée de cotisation qui, de fait, de toute façon, repoussera l'âge de départ à la retraite, à moins qu'on parte avant. Mais là, pour le coup, on aura une paupérisation d'un certain nombre de retraités qui auront déclenché leur retraite alors qu'ils n'auront pas l'intégralité de leur cotisation.
Alors, il y a peut-être une porte de sortie possible. C'est ce que François Bayrou dit ce soir dans Le Figaro. Il dit un référendum, pourquoi pas? Si ce conclave n'aboutit pas, et bien pourquoi pas un référendum?
Et moi, j'ai une lecture très cynique de la chose. Je pense que il faisait de la politique. Il a fait d'abord de la politique, François Bayrou, et quand il a proposé d'ouvrir ce conclave, cette grande conférence sociale, il faut pas oublier une chose, c'est que en faisant ça, il achetait entre guillemets, eh bien, la non-censure du Parti socialiste. C'était ce que lui demandait le Parti socialiste, et il a accepté. Et après tout, il fait de la politique et il est assez fin, il a réussi son coup puisque la censure n'a pas été votée.
Encore faut-il que les partenaires sociaux jouent le jeu. Là, pour l'instant, il faut que la claque la porte.
Maintenant, le problème, c'est que il faut qu'il en sorte de cette histoire-là. Et aujourd'hui, la sortie, elle me paraît très compliquée parce que, si vous voulez mon avis, là, il pourrait sauter au mois de juin, précisément. Parce qu'il faut pas oublier que s'il y a un accord qui est trouvé, cet accord, il doit encore être discuté au Parlement. Or, le Parlement, à l'Assemblée nationale en tous les cas, le Premier ministre est loin d'avoir une majorité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, comme d'habitude en France, quand les politiques ne savent pas s'en sortir, qu'est-ce qu'ils proposent? Un référendum. Ils balancent la patate chaude. Comme ça, si ça marche pas, et si le référendum donne un résultat qui dit, on veut, les Français veulent que, justement...
Tout dépendra de la question.
La question va s'appuyer nécessairement sur un projet de loi.
Si vous demandez aux Français aujourd'hui, est-ce que vous voulez revenir à 62 ans,
il ne posera jamais cette question.
Et alors, il y a une deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que il y a le coup de théâtre, si vous me permettez, d'aujourd'hui, de Force ouvrière, mais il y a aussi le MEDEF qui a sérieusement durci le ton.
Justement, on va en parler.
Ce qu'il faut dire, c'est que Monsieur Martin, le patron du MEDEF jusqu'à présent, était plutôt assez conciliant. Mais il s'est fait taper sur les doigts. Et il s'est fait taper sur les doigts par un homme, notamment, qui s'appelle Bernard Arnault, qui lui a dit non. Non, vous ne cédez pas. Là, vous êtes trop gentil. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Donc c'est Bernard Arnault qui tire les ficelles du conclave?
Attendez, il a les moyens de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans Le Monde, le journal Le Monde, Patrick Martin donne une interview où il est sur l'âge pivot. Alors là, il est fermé au possible.
On verra votre réaction dans un instant sur l'interview de Patrick Martin. Mais juste sur cette proposition de référendum, c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait dit effectivement, moi, j'aimerais bien interroger les Français sur un certain nombre
trancher.
Vous avez raison.
Des questions essentielles.
Voilà, demander aux Français de trancher sur des questions essentielles. La réforme des retraites, c'est une question essentielle. Est-ce que sur le principe, vous dites oui, ça pourrait être très intéressant d'aller demander.
Les sondages sont encore très très élevés pour un retour à 62 ans. On était à 66% dans le sondage Elabe il y a deux jours. Donc moi je dis référendum oui.
Ouais, mais vous imaginez une seule seconde que la question pourrait être
jamais.
Vous êtes d'accord favorable à un retour à l'âge de 62 ans?
Mais non, la question elle sera pas posée comme cela, mais je suis d'accord avec Yves Tréhard, mais c'était Ah oui, ça vous fait sourire, mais...
Non, mais allez-y, développez.
C'était se débarrasser d'abord du problème en disant « les interlocuteurs sociaux, les partenaires sociaux, débrouillez-vous avec le cinéma. Et si le cinéma marche pas, plutôt que de parler de théâtre, eh bien, on va demander, comme ça, faire un référendum. » Le nombre de fois où ça nous a été proposé et le nombre de fois où ça a été réalisé, jamais. En même temps, sur les retraites et notre système de retraite par répartition, il aura 80 ans cette année. Qu'on réfléchisse à son évolution, à son équilibre et tout ça, on est tous d'accord. On gère le régime de retraite complémentaire.
Agirc-Arrco.
Oui, Agirc-Arrco, paritairement. Et même quand on a dû prendre des décisions difficiles, on les a toujours prises. On sait prendre nos responsabilités. Pour autant, il faut qu'on nous laisse les moyens de pouvoir le faire. Moi, j'aime pas les carcans. Alors, j'aimais déjà pas les mitres. Mais alors, le carcan, c'est encore pire.
Ouais, vous dites que c'est biaisé d'avance, d'une certaine façon. Mais Gaëtan, j'en viens au sujet du référendum. Quelle pourrait être la question soumise aux Français?
Il y en a plusieurs. Est-ce que vous voulez maintenir un système par répartition? Est-ce que vous voulez ouvrir la voie à une nouvelle réforme des retraites, une retraite par points? On sait que ça avait été évoqué, souvenez-vous, au début du mandat d'Emmanuel Macron, finalement ça avait été abandonné. Ça aurait peut-être été finalement la meilleure des solutions. Il y a tout un tas de questions. En tout cas, une chose est certaine, on ne peut pas rester avec un système où on va droit dans le mur. Donc, de toute façon, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas dire aux Français, on ne peut pas leur mentir, on ne peut pas leur dire que la retraite à 62 ans est possible dans le système actuel. Parce qu'on ne pourra pas le financer dans le système actuel. C'est-à-dire sans augmentation de cotisation, sans augmentation du travail des seniors, ce que les organisations syndicales proposent. Mais aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, c'est pas possible.
Mais le problème, c'est que les solutions qui sont proposées par les syndicats et par le patronat, c'est pas du tout, c'est radicalement différent.
On est radicalement opposés entre Patrick Martin et moi.
Juste sur Patrick Martin, et après je vous fais réagir parce qu'il a donné une interview dans Le Monde. Il faisait référence d'emblée ce matin, avant même le début des concertations. Il dit je suis hélas pessimiste sur l'issue des discussions. Donc vous voyez, vous avez un point commun avec Patrick Martin.
J'en ai plein de points communs avec lui.
Et puis alors vous allez nous dire dans un instant les autres points. Copain. Et sur la réforme des retraites, la possibilité de remettre en chantier la réforme de 2023, ce qui est votre volonté, il le dit, c'est une mauvaise idée, une initiative malheureuse qui a été prise dans le cadre d'un accord de non-censure avec le Parti Socialiste, et on y revient. Donc, vous avez effectivement plusieurs points communs avec Patrick Martin, vous estimez que c'est une espèce de mise en scène politique et que vous êtes pessimiste sur l'issue
de ces négociations. C'est comme moi que le cadre dans lequel on tente de nous emmener, il n'est pas possible pour trouver un accord. D'abord, ce ne sera pas un accord, ce sera un relevé de conclusion ou un relevé de décision des uns ou des autres. Donc, on sait que légalement, pour nous qui avons l'habitude de négocier, on n'y arrivera pas. Mais on disait la même chose de nous, on était à l'opposé sur la négociation, sur l'emploi des seniors, et pourtant, on l'a trouvé, cet accord.
Donc, un accord est possible?
Oui, mais pas dans ce cadre-là. Pas. Pour négocier, il faut être deux. Qu'est-ce qui a chopé l'année dernière quand on a parlé pacte de la vie au travail? On n'était pas deux autour de la table, on était trois. Et les mariages à trois, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé, je vous garantis, ça ne fonctionne pas. Le sujet, le gouvernement disait, si vous mettez retraite progressive, on ne sera pas d'accord, on ne va pas rejouer le match de la réforme des retraites. Et pour le coup, on a capoté sur pacte de la vie au travail, où là on parlait emploi, formation professionnelle, reconversion, aménagement de fin de carrière, pénibilité ou usure au travail et prévention. Eh bien là, on a la possibilité de pouvoir discuter tous ces points-là. Et si on doit parler de financement, quand le patronat dit capitalisation ou une capitalisation supplémentaire, je dis on n'est pas d'accord avec
un
la
capitalisation.
On n'est pas d'accord avec un système de capitalisation. Pour autant, si on doit discuter de l'avenir de notre retraite par répartition, il va bien falloir qu'on se pose des bonnes questions au bon moment. Mais on nous disait déjà, quand François Mitterrand a passé la retraite à 60 ans, que en 1990, on était dans le mur et tout serait déficitaire et tout cela. Bon, eh bien, on est en 2020.
Là, vous avez le rapport de la Cour des comptes pour le coup.
Oui, mais 2023, même si c'était lié à l'inflation, personne ne parle de l'excédent budgétaire de ce moment-là, ni des années où il y en a eu. On ne parle toujours que des déficits.
Bah oui.
Jamais des excédents.
Parce que devant nous, ce sont des déficits qui nous attendent et non pas un régime excédentaire.
Eh bien, moi, je vous garantis, augmentons de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans et on a signé un accord sur l'emploi des seniors. Pour ça, on a même mis la contrepartie de force ouvrière, le nouveau contrat de valorisation de l'expérience des 60 ans pour les demandeurs d'emploi, avec un maintien de leur pouvoir d'achat avec une compensation de l'assurance chômage. Voyez, moi, je l'ai fait, mon compromis, mon pas sur le sujet. Maintenant, quand je demande au gouvernement et la transposition, c'est quand ? On a signé en novembre. Hein. Mm-hmm. C'était mission flash, il fallait négocier rapidement. On nous dit mai-juin.
Bruno, moi, quand j'entends Frédéric Souillot qui quitte la table des négociations, Patrick Martin au niveau du MEDEF, pareil, qui dit de toute façon, moi, je suis très pessimiste sur l'issue de ce conclave, sur quoi ça peut déboucher ?
Il faut voir ce que va dire la CFDT. Je pense que la CFDT va quand même avoir un rôle important. Ne serait-ce que pour essayer de trouver une sorte de compromis ou un terrain minimum pour le gouvernement. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'au référendum, mais de toute façon, le référendum, ça s'appuiera forcément sur un projet de loi. Donc, ce projet de loi, il faudra qu'il soit nourri. Sur quel point ils iront ? La CFDT va quand même avoir un rôle parce que de la décision de la CFDT dépendra aussi de ce que diront les socialistes au Parlement. Et c'est ça qu'il faut surveiller. On voit bien que pour ce qui est du MEDEF qui est rentré en traînant les pieds, c'est pas vraiment une surprise qu'il soit vraiment le pied sur le frein. On pouvait se douter que Force ouvrière, en rentrant, resterait pas très très longtemps et que la CFDT emboîtera probablement le pas. Après, il y a des autres partenaires qui restent, et notamment la CFDT. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut regarder. Après, si la CFDT baisse le pouce assez vite, le conclave sera mort.
Qu'est-ce que vous dites aux autres partenaires ? Je vous donne la parole dans un instant, Yves, mais Frédéric Souillot, qu'est-ce que vous dites aux autres syndicats ? Vous leur dites que c'est une perte de temps, claquer la porte comme nous ?
Je dis faites comme nous, réclamez un L1 du Code du travail pour qu'on négocie sur l'amélioration des conditions de carrière des uns et des autres et la formation professionnelle tout au long de la vie. On augmentera le taux d'emploi et on réduira le déficit très, très rapidement.
Le problème de François Bayrou, c'est que, bon, il y a les partenaires sociaux, effectivement, mais il y a aussi le fait que le sujet des retraites, eh bien, fait la coalition de toutes les oppositions, puisqu'ils sont tous d'accord là-dessus. Ouais. Ils sont tous d'accord contre le gouvernement et le pouvoir exécutif. Hein, du Rassemblement National à la France Insoumise, en passant par le Parti Socialiste, les Verts et les Communistes. Et là, si vous rassemblez tout ce monde-là, ça fait une majorité.
Le Parti Socialiste, faudra voir si ça s'aligne pas sur la position de la CFDT.
Alors, faut voir.
Justement, s'il y avait eu un accord de tous les partenaires sociaux, eh bien, au Parlement, on aurait été obligé de respecter cet accord. Même si, effectivement, il déplaisait au Parti Socialiste ou au Rassemblement National, je vois mal comment les parlementaires pouvaient désavouer, effectivement, les partenaires sociaux, mais on s'oriente malheureusement pas vers un accord entre les partenaires sociaux.
Vous aussi pessimiste ce soir, Gaëtan Mélin. Il y en a un qui va pas avoir de problème de retraite, c'est l'ex-directeur général de Stellantis, Carlos Tavares. Je vois cet urgent de l'agence France Presse qui nous dit que Carlos Tavares doit toucher une indemnité de départ de 12 millions d'euros.
Ça tombe
un commentaire,
très, très mal.
Frédéric Souillon.
Ben, c'est comme à chaque fois. On a dépassé l'entendement, 12 millions d'euros.
12 millions d'euros.
Oui. Bon ben, même s'il continue avec le train de vie qu'il a actuellement, ni lui ni ses enfants n'auront de problème d'argent jusqu'à la fin de leur jour. Et dans le même temps, il refusait d'augmenter les salaires et le reste. Ce qu'on peut dire sur Stellantis, c'est qu'il a fait un bon boulot de redressement au moment où il a fallu faire la fusion. Maintenant, c'était comme les indemnités de départ de Carlos Ghosn ou d'autres. Mmh. On est dans l'hallucination. C'est comme il y a 25 ans, quand les employeurs gagnaient 20 fois le salaire moyen de l'entreprise, on trouvait qu'ils étaient très bien payés. Aujourd'hui, quand c'est 100 fois, 200 fois ou 300 fois, ça n'a aucune Aucune mesure, c'est pas admissible.
Surtout que le timing est très mauvais puisque Stellantis vient de publier ses résultats annuels et les résultats sont tout simplement catastrophiques.
Mmh. Oui.
Donc ça tombe vraiment au pire des moments.
Mais pourquoi on continue comme ça? Pourquoi on continue avec de telles indemnités de départ alors même qu'à chaque fois, ça crée la polémique?
Ce sont des contrats qui sont négociés, c'est une entreprise qui est privée. On a beau le déplorer, malheureusement, encore une fois, c'est un conseil d'administration qui valide des contrats. Donc voilà.
Merci Gaëtan Mélin, merci Frédéric Souveau. Donc vous ne serez pas de retour jeudi prochain à la table des négociations du côté de FO.
Non, mais on
verra.
Je peux revenir vous voir. Pour
avec grand plaisir. On verra ce que feront les autres syndicats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.